Le psaume 105. Mais, ensemble, Dieu voulant, ce matin, on va, lorsque le frise va partir, on va regarder la parole. En passant, comme préambule, est-ce qu'il y a eu beaucoup de chicanes dans les familles cette semaine? Diane me disait ça, elle dit « Ouais, mais elle dit, Michel, elle dit, tu dis au monde, je le fais chacun à part, venez voir ensuite. Il peut avoir des réponses différentes. » Oui, il y a des réponses différentes. Mais il y avait une question piège. Laquelle que c'était pour ceux qui avaient feuilles? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose là-dedans? Il y avait une petite question piège. Je vais vous la poser. Adam avait-il un nombril ou pas? Vous allez peut-être dire, ben Michel, écoute là, tu prends pas ça dans la Bible. Là. Ouais, mais Michel, il répondrait quoi? Ben Michel, il répondrait William McDonald dans sa feuille, justement, des tiroirs, des choses essentielles, non négociables. En passant, il en trouve 11, des choses secondaires, et les choses pas importantes pour tout. Et croyez-le ou non, il y a une église aux États-Unis, il y a une église qui s'est divisée parce qu'il y a un artiste qui avait fait une photo, une caricature en bas, une peinture de Adam et Ève. Et tous admiraient cette œuvre d'art. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a commencé à dire, « Ouais, mais regarde, il manque de quoi à Adam? Il n'y a pas de nombril. » Et croyez-le ou pas, ça a divisé l'Église. Et c'est pour ça que je l'ai mis, pour vous conter cette histoire-là. Alors, pour nous, un matin, il y a un grand défi, puis c'est humblement, avec crainte et tremblement, que j'arrive dans cela. La plupart des Églises vont sauter par-dessus le chapitre 11. Nous, on fait rien que le chapitre 11. Mais dans tout cela, que le Seigneur nous dirige et qu'il puisse, ensemble, lorsqu'on va glaner, et je réalise que je ne pourrais pas le faire exhaustivement parce que j'ai 44 pages de notes là-dessus, puis je ne peux pas, dans ces peu de temps que j'ai, et c'est pour ça que les anciens m'ont donné la permission de faire une réunion dans l'après-midi, c'est le 3 juillet, si ma mémoire est bonne. Hein, Benoît? C'est le 3 juillet l'après-midi? On va l'annoncer à tous les cas, là. Le 3 juillet à 13h30. Ou 2 heures, quelque chose comme ça, pour ceux qui veulent aller plus profond dans ce sujet de 1 Corinthiens. Pour un matin, ça c'est mes notes, c'est le texte, et on va parcourir cela ensemble. Mais vous savez, je ne peux pas m'empêcher de penser ce qu'on vient d'entendre sur les persécutions. Le sujet premier de ces églises-là, est-ce que la femme doit être couverte ou pas? J'ai l'impression qu'ils vont parler d'autres choses. Vous en pensez? Et c'est vu dans l'histoire de l'Église, lorsque l'Église devient riche, on peut même, certains emploient le mot « obèse », le club privé, nos zones de confort qu'on ne veut pas quitter. On commence à couper les cheveux en quatre avec toutes sortes de choses. Dans le premier siècle, il y avait des érudits qui s'assinaient pour savoir combien d'anges peut danser sur le bout d'une aiguille. Et ça a fait une grosse discussion. Ça, c'était important. Et le défi dans notre vie chrétienne, c'est de mettre les choses à la bonne place. Comme dans l'Église, c'est d'avoir les bons hommes à la bonne place. Et ce matin, je vais aborder l'exégèse de ces 16 versets, que vous allez comprendre que je vais glaner au travers de cela. Et dans l'après-midi, si vous voulez aller en détail avec l'original, on pourra toujours y aller. Mais faut savoir que, en partant, je ne crois pas que les anciens, lorsqu'on parlait ensemble, le but, ce n'est pas de couvrir ou de découvrir. Le but, c'est de comprendre la parole de Dieu avec des règles, avec une approche linguistique, une approche historique, culturelle, géographique, économique, comme on a vu la semaine passée. Et notre but, c'est d'approcher les Écritures sincèrement et d'y aller avec nos convictions. Le seul problème, c'est quand vous prenez des choses qui vont dans le deuxième tiroir et vous le mettez dans le premier tiroir, ça devient aussi précieux que le sang de Jésus-Christ nous sauve de tout péché et que les chaises soient en rond à la tour de la table du Seigneur. Et si on a toutes mis ces choses-là dans le premier tiroir, on se ramasse avec nous autres, on l'a, puis les autres, ils l'ont pas. Nous autres, on aime le Seigneur, puis les autres n'aiment pas le Seigneur comme nous autres. Nous autres, on obéit, puis les autres n'obéissent pas. Et là, c'est pour ça que vous voyez, comme j'ai dit la semaine passée, milliers de dénominations dites chrétiennes, bien sincères. Il y en a même avec Marc XVI et qui amènent des serpents en avant, là, puis ils sont piqués par le serpent pour montrer qu'ils ont la foi comme Paul, qui s'est fait piquer par une vipère. Et puis, eux autres, ils l'ont la foi, parce qu'ils ne peuvent pas se faire piquer par les serpents, puis pas mourir. Comme Paul. Et on a des gens avec une bible dans les mains, puis un fusil dans les mains, qui allent tuer des médecins qui font des avortements. Oui, moi, oui, je suis contre l'avortement aussi. Je suis pour la vie, là. J'aime mieux célébrer la vie que l'avortement. Mais c'est l'attitude dans tout cela. On ne voit jamais l'apôtre Paul avec une pancarte devant une taverne du 1er siècle en condamnant l'ivrognerie. Je suis contre l'ivrognerie, je suis contre l'ivrognerie. En condamnant l'esclavage, je suis contre l'esclavage, je suis contre l'esclavage. Tu vois pas ça? Mais Paul est soucieux de transmettre la pensée de Dieu. Il y a des vérités extrêmement importantes en 1 Corinthiens 11. Et c'est ce que je veux faire ressortir ce matin dans un peu de temps, ce que nous allons voir ensemble. C'est pas facile ce que Paul dit. C'est humblement, avec grand crainte et tremblement, plus tu lis là-dessus, plus tu vois. Mais on n'est pas tout seul. Qui dit de Paul, qui dit des choses difficiles. Parce que Pierre dit la même affaire dans 2 Pierre 3, 15 et 16, dit « Croyez que la patience de notre Seigneur Jésus-Christ est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres. Où il y a ces choses, hein? Il y a de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. » Bon, on peut-tu se consoler? C'est difficile du temps, au premier siècle. Paul avait une révélation de Dieu, avait une manière d'écriture, un genre littéraire qui n'était pas comme Jean, qui n'était pas comme Matthieu. Puis il transmettait la vérité de Dieu, inspiré de Dieu, insufflé par Dieu, gardant son style littéraire. Il a écrit et il y a des choses difficiles. Puis on va essayer de voir, en fin de compte, le fossé. Si vous voyez D, c'est pas parce que j'ai éliminé beaucoup d'acétates, parce que ça en avait trop. Mais ce qui est important pour nous ce matin, c'est de réaliser que le fossé culturel à Corinthe va expliquer beaucoup de choses. Il y avait des Romains, des Grecs, des personnes d'Asie mineure, d'Israël, d'Égypte, se ramassaient tous à Corinthe. Et ça, on en parlera plus tard pour vous expliquer pourquoi. C'était une place, c'était les nouveaux riches qui étaient là, c'était des esclaves libérés, des anciens soldats. C'était le Los Angeles du 1er siècle. C'était la place où ça se passait les affaires économiques, etc., etc. Dans ce fossé social, il y avait le culte officiel de l'empereur César. Il y avait les cultes des divinités grecques, Aphrodite, et tout cela. Il y avait les cultes à mystère venu de l'Orient. Myrtia, culte égyptien, Isis, Isis, et il y avait aussi Serapis. Il y en a un paquet, c'est long de main. Puis, il y avait aussi une synagogue juive à Corinthe. Il y avait les Juifs qui avaient été dispersés. Donc, c'est mêlant quand on essaye de lire ça d'une première lecture, et c'est sûr que c'est confus un peu, parce que Paul va utiliser trois cadres pour nous dire ce qu'il veut dire. Dans un certain cadre, dans un autre cadre et dans un autre cadre. Le premier cadre qu'il va utiliser, c'est l'ordre créationnel. La création. Ça, on voit ça au verset 3, 10, 11 et 12. Il va parler de ça. Puis en même temps, il va parler de quoi? De la société de Corinthe, dans le verset 13, 15 et 16. Et dans le verset 4 à 6, il va parler des cultures. Et la culture et la société, vous savez, si vous allez à Montréal, et même ici, on a plusieurs cultures, on est Québécois, mais il y a des Québécois de souche, puis il y a aussi des Québécois, notre frère pourrait nous en parler longtemps, des nouveaux arrivés Québécois qui arrivent, mais qui ont une culture différente. Donc, ça fait, si vous voulez, un melting pot, excusez l'expression anglaise, qui fait un amalgame de cultures ensemble, cosmopolite, qui est le vrai mot, merci Adama, et là, il se passe des affaires. Parce que c'est ça qui forme la société. C'est ça qui forme le momentum de la ville. Et c'est pour cela que lorsque nous, en 2016, on lit cela, on a beaucoup de misère à saisir le point essentiel que l'apôtre Paul est en train d'enseigner. Le principe intemporel et divin. C'est le verset 3, ça. Ça part tout de là. « Je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. » Là, excusez-moi, mais je ne veux pas mentionner le mot le plus haï du Nouveau Testament. La soumission. Je ne mentionne pas. On ne parle pas de ça ce matin. Mais j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Est-ce que Christ est inférieur à Dieu? Est-ce que Christ est inférieur à son Père? L'apôtre Paul, dans le chapitre 11, est en train de parler de relations dans la Trinité. Il est en train de parler de relations entre l'homme et la femme. Il est en train de parler de la création. C'était comme ça que Dieu a fait la création. Il a créé l'homme à l'image de Dieu. Et c'est mentionné que Dieu a créé aussi la femme à l'image de Dieu. Et Dieu a fait en sorte qu'il rend l'homme responsable de l'enseignement que sa femme, et aucun verset biblique qu'on peut lire qui dit que l'homme doit forcer sa femme à être soumise. Aucun. Parce que le mot soumission était tellement charrié, on ne peut pas trop en parler, mais c'est quelque chose qui était tellement charrié qui a perdu sa vraie sens biblique. Une équipe, homme et femme, qui vivent ensemble, qui sont un devant Dieu, échad, qui sont un groupe, et qu'eux travaillent pour la gloire de Dieu ensemble, mais il y en a un qui est responsable ultimement pour la décision, c'est l'homme. Est-ce que Christ est inférieur? Non. Est-ce que Christ a le même rôle que son Père? Non. Il y a un différent rôle. Comme l'homme et la femme ont de différents rôles dans la famille. Et c'est cela que Paul veut remettre sur la table, parce qu'il y arrive des choses. Et souvent, lorsqu'on parle de chef, de soumission, de tête, on voit ça comme ça, Père, Fils, Saint-Esprit, homme, femme, enfant. Mais c'est pas ça que la Bible a dit. La Bible a dit ceci. Il y a Père, il y a Fils, il y a Saint-Esprit, il y a homme, il y a femme, il y a enfant. Essayez de dire à vos enfants, quand ils arrivent à un certain âge, que vous êtes supérieurs aux autres. Vous allez parler longtemps. Il faut savoir que c'est une question de rôle, une question d'identité que Paul est en train de mettre sur la table en ce qui concerne 1 Corinthiens 11. Un principe intemporel et divin qui est enraciné dans la création. Lorsqu'on voit dans Genèse 1, 27, Dieu a créé l'homme et la femme à son image. C'est l'ordre créationnel. Il y a une différence entre l'homme et il y a une différence entre la femme. Et moi, je dis, vive la différence! Vous voyez, j'aime ma femme, et pour moi, la différence est merveilleuse, c'est une belle aventure. 42 ans de mariage, c'est pas 43. C'est comment? 43, wow! Hey, ça passe tellement vite, j'ai oublié le temps. Et là, c'est une belle aventure, chacun dans son rôle, chacun sachant qu'il est une équipe, fait gagner l'équipe, on marche ensemble pour la gloire de Dieu. Et c'est cela que Paul est en train d'enseigner tout au long des 16 versets. Parce qu'on ne faut pas aller à 17 tout de suite, mais j'aimerais ça qu'on réalise que 17, pour le reste du chapitre, il y a des problèmes. Il y a un chaos, il y a le désordre. Désordre, 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 qui n'est pas la gloire de Dieu dans cette Église. Si vous demandez à un étudiant de séminaire ou qui ont étudié les Églises, la première chose qu'ils vont vous dire, moi j'aimerais être dans n'importe quelle Église excepté Corinthe. C'est la pire Église qu'il n'y a pas. Pourquoi qu'à Corinthe, la seule place à Corinthe, que Paul est obligé de mettre l'accent sur le rôle de l'homme et la femme, le rôle de la Trinité, Père et Fils, Christ est le chef de l'Église. Pourquoi qu'à Corinthe, ils n'ont jamais là-dessus, eux autres? Corinthe ne couvrait pas votre tête. J'espère qu'il n'y a personne qui a décalé. Ah, c'est vrai, on est en 2016. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les hommes de Corinthe ne devraient pas couvrir leur tête? Pensez à ça deux minutes. Pensez-y. Parce que dans l'Ancien Testament, on voit que les soins sur le cœur se couvraient la tête. Et à Corinthe, là, l'homme ne doit pas se couvrir la tête. Premièrement, se couvrir la tête pour l'homme, ça imitait une coutume romaine, une pratique d'adoration païenne du premier siècle. L'homme, la tête couverte, disait, « Moi, je fais un culte d'adoration et moi, je suis le premier ici. Je vois l'autorité. » Ça communiquait une influence et une autorité. Le culte de César, ça c'est César, qu'est-ce qu'il y a sur la tête? Un voile. Une couverture. Ils n'appellent pas ça un voile en passant, là. C'est manteau, c'est voile, c'est quelque chose à la tête. Et ça disait que moi, César, il n'y a pas personne plus haut que moi. C'est moi le boss. Mais dans l'Église de Corinthe, le boss, c'était pas l'homme, la tête couverte. C'était l'homme, la tête découverte, avec Christ qui est le chef, le premier, le chef de l'Église, c'est lui qui a la tête. Qui est à notre tête, c'est lui qui est le boss. Si vous regardez ici, dans mon deuxième photo, on voit une sculpture. On voit César qui est dans le milieu ici. Ça va si ça fonctionne, cette affaire-là? Oui. On voit César qui est dans le milieu ici avec son voile et les autres n'ont pas de voile. Pourquoi? Parce que celui qui a quelque chose sur la tête disait, « Je suis celui qui dirige, je suis le Dieu que vous devez adorer. » Je suis celui qui est en leadership. Il n'y a pas personne d'autre en haut de moi. Et c'est quelque chose, à fin de compte, qui nous fait réfléchir sur pourquoi. Le mauvais témoignage dans l'Église, le chaos est dans l'Église. La femme de Corinthe doit se couvrir la tête. Pourquoi? Pensons à ça. Pourquoi? Et le verset 5 nous commence à nous expliquer cela. Et voici toute femme qui prit la tête. Qui prie ou qui prophétise la tête découverte, déshonore sa tête à elle, car par ricochet à son mari, car c'est la même chose qu'une femme qui aurait la tête rasée. C'est la même signification. Si la femme de Corinthe ne se couvrait pas la tête, c'était comme une femme la tête rasée. Même signification. Car si la femme n'est pas couverte, qu'on lui coupe aussi les cheveux. Mais s'il est déshonnête pour être une femme, d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasé, qu'elle se couvre la tête. Moi, je suis d'accord avec Paul. Si il est déshonorant pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasé, qu'elle se couvre la tête. Oui. C'est déshonorant. Que signifie à Corinthe au premier siècle une femme non voilée ou qui avait la tête rasée? C'est la prochaine question que je me suis posée. C'est ceci. Je suis disponible. Non marié, disponible. Je suis immodeste. Je suis immoral. Et là, on dit, wow! Paul dit, écoutez, là, vous autres, les femmes, là, vous venez à Christ, vous goûtez à la nouvelle liberté en Jésus-Christ, puis là, vous arrivez dans une réunion, vous enlevez votre voile, les gens vous revoient, vous dites au monde alentour de vous, et vous dites à ceux qui sont là dans l'Église, « Je suis disponible, je suis immodeste, et elle est immorale. » Pourquoi? Il y avait des cultes à Corinthe, où il y avait au-dessus de 1000 prostituées qui montraient leur métier de prostitution. Savez-vous comment? D'après vous? La tête découverte, les cheveux au vent. C'était des femmes libres. Une culture où, lorsqu'on voyait une femme comme ça, « Hey, on peut l'approcher, celle-là. Elle est là. » Et je vais m'asseyer parce que, regarde, elle est immodeste, là. Elle va pas avec le décor pantoute, là. C'est probablement quelqu'un d'immoral, donc je peux m'arranger pour aller la voir. Puis avec toutes les cultures qui étaient à Corinthe, il y avait tout un système de prostitution mâle et femelle. Pour les femmes chrétiennes de Corinthe se dévoilaient. Là, la prochaine question, c'est se poser la question. Mais pourquoi qu'ils se dévoilaient? Parce que, dans le fond, avant, s'ils venaient des temples païens où les femmes enlevaient le voile, ils gardaient les mêmes coutumes puis ils rentraient, mais il y avait d'autres femmes qu'eux autres, avant, ils se couvraient. Puis là, ils arrivent dans l'église puis ils se découvrent. Je vais vous donner une possibilité. Il y a plusieurs possibilités. Écoutez, il y en a qui ont trouvé des... Moi-même, j'ai trouvé 13 manières d'expliquer ça, mais je vais vous donner celle qui, je pense, qui va bien aussi. Vous savez que Galates a été écrit avant 1 Corinthiens. Et c'est une des premières épîtres que Paul a écrit. Puis il dit ceci, « Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni mâle ni femelle, car vous êtes un dans le Christ Jésus. » Ça, c'est la version Darby. Version 21, il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et avoir le temps, vous pouvez lire les versets en arrière, 27, 26, qui dit, « Wow! Vous êtes tous fils de Dieu! » Et là, vient le verset ici qui explique comment que Paul peut dire ça. La nouvelle liberté en Jésus-Christ, l'esclave était égal à l'esclave, la femme était égale à l'homme. Il n'y avait plus de différence de position. Ils étaient des fils et des filles et des filles de Dieu. Et là, ils arrivaient dans l'église et enlevaient le voile. Et là, le scandale arrivait. Puis là, problème arrivait. Et là, la chicane poignait, c'était un mauvais témoignage pour certains. D'autres disaient, non, moi je suis libre en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Et nous savons tous, à fin de compte, que chapitre 3 de Galates nous parle de quoi? Il nous parle de notre position en Jésus-Christ. Et on n'a pas le temps de parler ce matin comment est-ce que le christianisme a élevé la condition féminine au travers du monde, au travers de l'histoire. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites qui étaient dégueulasses, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites qui a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et Jésus, lui, a dit, dans la position salutaire, promesse à Abraham, nous sommes tous fils, hommes, femmes, esclaves, libres. On est tous des fils de Dieu. Et lorsque les femmes de Corinthe ont appris cette chose-là, qui est une déduction, parce que pour cette explication, il faut déduire qu'ils ont lu l'épître de Paul, il y avait un énormément de mélange. Ce que disent nos vêtements. En cherchant à mieux comprendre 1 Corinthiens 11, 2 à 16, ce que nous désignons comme la culture est une réalité complexe qui peut être très différente d'un endroit à l'autre et d'une époque à l'autre. Corinthe. Pourquoi pas l'église d'Éphèse? Pourquoi pas l'église de Galates? Pourquoi? Pourquoi Corinthe? La culture de Corinthe, le mix de Corinthe cosmopolite qui était la place de rencontre de toutes ces tribus, de ces cultures, qui, à fin de compte, faisait en sorte qu'il y avait une société qui était tricotée d'une certaine manière unique dans le premier siècle. Et on voit ce phénomène partout où vous allez dans l'histoire du monde. Jugez-en vous-même. Vous savez, c'est intéressant cette exhortation de Paul qui dit aux Corinthiens, jugez-en vous-même. En quoi les Corinthiens étaient experts? En ce que Dieu disait? Ben non, c'est une église tout croche, remplie de toutes sortes de choses dégueulasses. Est-ce qu'il était expert dans la révélation de Dieu? Non, il n'était pas. La seule chose que les Corinthiens étaient experts, ils étaient experts de la culture dans laquelle ils vivaient. Ils connaissaient très bien leur culture. Ils connaissaient très bien leur société. Puis ils disaient, écoutez bien, jugez-en vous-même. Vous savez, en 1944 et 45, accusés à tort ou à raison de collaborer avec l'occupant allemand, on a estimé entre 20 000 et 40 000 le nombre de femmes qui ont eu la tête rasée en France entre 1944 et 1945. Si vous rencontrez à Paris, en France, une femme la tête rasée en 1944-45, automatiquement, on se disait, elle a la tête rasée, c'est quelqu'un qui a coopéré avec les Allemands. Pourquoi? Parce qu'on a ramassé des gens et ça a devenu un symbole, la tête rasée. Une femme qui a la tête rasée en 2016, quel message est-ce qu'on donne à une femme qui a la tête rasée en 2016? Si vous allez à l'épicerie, puis vous êtes en train de faire votre épicerie sur IGA, disons métro pour qu'il y ait des chicanes, n'importe où. Puis vous rencontrez une femme qui a la tête rasée, quelle est votre première réaction? Pardon? Ouais. Ça n'a pas la même signification. C'est le cancer. Vous savez, à quelque part, on pourrait te dire, hey, c'est une prostituée. Mais dans le temps de Paul, au premier siècle, c'était très clair. Vous êtes mieux de mettre un voile. Parce que quand vous n'avez rien sur la tête, c'est comme si vous auriez la tête rasée. Ça lance un message confus. Vous autres, les hommes, enlevez vos chapeaux. Ça lance un message confus dans le premier siècle. C'est le culte de César. Ou qui dit, c'est moi qui ai le chef. Nous, on n'est qu'un chef, c'est Christ. Voyez-vous l'argumentation? Hé, hey, la tête rasée, hein? Le défi de la tête rasée. Là, je pensais à moi-même. On ferait-tu faire ça à l'Assemblée? Ah, ils ont ramassé à Trois-Rivières, je pense, c'est des milliers de dollars. Hein? Je me souviens plus combien, là. 11h15. Quatrième point. On est 12. Attention au message que nous envoyons par notre habillement. Savez-vous que votre habillement parle? Regarde, moi, je suis habillé de même, là. Mais à l'inauguration, là, j'avais un habillement aussi, qui parlait. Il faisait de la barbe à papa. Mon habillement parlait, elle m'a dit de quoi? Personne ne se trompait, c'est lui le bouffon. Aujourd'hui, ben là, j'ai mis des pantalons blancs, il va faire 30 degrés, il va faire chaud, humide. Hey, c'est-tu bon, une climatisation comme ça ici, là? Merci, merci Seigneur. Notre habillement parle. Croyez pas ça? Ben oui, voyons. Dans le temps de l'apôtre Paul, parce que l'habillement lance des messages confus. Et dans le temps de Paul, l'habillement, l'apparence, même si vous dites, Seigneur, regarde au cœur, Seigneur, regarde au cœur. Oui, je sais. Mais le reste des gens sur la planète Terre, horizontale, regarde à l'apparence. Quel message nos habillements lancent? En passant, je veux pas parler pour l'été, là, mais, ouvrez la parenthèse, si vous voulez, dans votre tête. Nos habillements parlent. Ça lance un message confus. Tu sais, le message « Jésus sauve! » Puis du monde habillé drôlement. C'est pas confus, ça? C'est-tu confus, ça? Hein? Les cococa. C'est dur à croire, hein? Il y avait des versets de la Bible qui disaient « Wow! Hey, j'ai interprété la Bible, moi! » Puis là, c'était des jaquettes pour brûler, pendre des personnes qui avaient la couleur noire. Adama, faut pas vivre dans ce temps-là. Vous savez, ça parle, c'est confus. Tu sais, une Toyota, puis des chevals. Oui, j'ai rien contre ça, là. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, là. C'est dans le deuxième tiroir. Si tu me dis, il faut que tu aies un buggy puis des chevals pour être un vrai chrétien, là, j'ai un problème. Vous d'accord? C'est des messages confus qu'on lance. Même celui qui est au-dessus de tout, catholique, il a un quoi à sa tête? Savez-vous ce que ça représente, ça? C'est comme le culte à César. Il dit qu'il n'a pas plus haut que lui. C'est lui le représentant de Dieu. C'est lui. Puis il y a un code de couleur avec les petits capots, là. On ne parlera pas de ça, on n'a pas le temps. On lance des messages confus aujourd'hui au Québec, en Amérique du Nord. On n'est pas en Arabie Saoudite. C'est un autre pain de manche. Je voulais amener les gants, j'ai oublié, là. Je voulais amener les gants qu'ils en a là pour sortir des affaires chaudes du poêle, c'est rouge. C'est des gants rouges, là, qui brûlent pas, là. Je vois, ils ont vu ça à TV. Puis, je vous dis, là, devant Dieu, là, si j'irais au pays Wit-Wit, là, qu'il faudrait avoir des gants de même pour parler du Seigneur, je les mettrais. Si j'irais en Arabie Saoudite, moi puis Diane, là, bien, on s'habillerait comme eux autres. Puis on annoncerait l'Évangile. J'attends qu'ils nous tuent. Parce qu'on voit ce qui arrive aux chrétiens, là. Voyez-vous, le message qui est lancé, au premier siècle, le message était clair. T'as rien sur la tête, c'est comme si tes cheveux coupés. Écoute, tu passes pour la prostituée de la déesse de l'amour, mâle et femelle, puis là, on va revenir avec les cheveux longs des gars, là. Vous manquerez pas les gars non plus, là. Faut que j'aille vite. OK, ça, je vais le sauter. Ça, c'est du grec, OK. Les anges ne veulent pas voir. Là, la question... J'ai peut-être été trop vite avec ça, un petit peu. Les anges ne veulent pas voir le désordre, le mauvais témoignage dans l'Église de Corinthe. C'est ça. Cette question des anges, il y en a qui balisent ça de la main, qui disent... Ah, il n'y a personne qui peut comprendre ça. Et là, il y a toute une théorie là-dessus. Il y en a d'autres qui disent, ah oui, c'est important parce que sexuellement, les hommes peuvent être tentés sur les femmes qui n'ont pas la tête couverte. Puis là, ils reculent dans Genèse 6. Et il y a toute une théorie. Vous savez comment est-ce qu'il y en a décrit des affaires? Il est question de la femme elle-même pour que l'ordre voulu par Dieu soit évident, même pour le monde invisible. La femme doit être femme et l'homme doit être l'homme. La spécification des sexes, c'est-à-dire Dieu à l'ordre de la création. Les anges qui étaient témoins de la création. Les anges qui aiment voir l'ordre dans l'Église. Disaient, écoute, vous voulez avoir l'ordre dans l'Église? Vous voyez ce qui se passe à Corinthe, là? Bien, couvrez-vous la tête. À cause du mauvais témoignage que vous amenez à l'Église. Et c'est cela qu'il faut savoir, c'est que la première phase des anges, c'est de regarder ce qui se passe dans l'Église. Pierre en parle, Éphésiens en parle, et il est 11h20. Phase du premier commandement au verset 3. Que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu n'aime pas le désordre. Dieu a créé d'une manière, comme le divorce. Au début, c'était pas comme ça. Quand les pharisiens lui posent la question au Seigneur, là. Oui, mais Moïse a permis la lettre de divorce. C'est quoi la réponse du Seigneur? Mais c'était pas comme ça au début. L'ordre créationnel est toujours plus fort que la tradition. Faut toujours retourner à l'ordre créationnel. C'est l'ordre que Dieu établit avant la création. Donc, les anges sont témoins. Le monde invisible est témoin. Et ils apprennent que Dieu est sage, infiniment sage. Et pensez-y comme il faut, là. Pensons-y ensemble. Un Dieu sage, est-ce qu'il ferait d'une manière de te peigner? Une coiffure que tu portes, une coiffure que tu portes pas. quelque chose de non négociable au travers des siècles et intemporel et divin? Pensez-y. On a vu des photos tout à l'heure, là. C'est-tu des bons chrétiens, ça? Jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? C'est le mot découvert qu'il y a là. Le mot voile n'est pas dans la Bible. C'est honte pour l'homme d'avoir de porter les cheveux longs. Alors, je pose la question. Qui est plus biblique? Oh, excusez, j'en avais mis un autre. Qui est plus biblique? Bing Crosby. Comment il s'appelle? Ouais, oui. Lui, là, c'était le crooner des années 20-30. Hein? Là, tout le monde l'imitait. Moi, j'ai commencé à imiter Elvis Presley avec la peignure, là. Mais, lui, il est un peu plus long, là. Mais lui, il est biblique en petit peu près. À remercier Martin Matt qui a fait le coco bien populaire. Je vous le dis, là. Tout le monde coupe le coco aujourd'hui. Mais si vous seriez dans les années 70-80 comme moi, avec les Beatles, on se laissait tous pousser les cheveux. Je me rappelle un frère bien-aimé avait dit à mon cousin, « Avec la tête de Charles de Bois que tu as sur la tête, tu rentres pas au ciel. » Oh, hein? Ça va-tu dans le premier tiroir? Paul dit le gros bon sens. Il dit la signification culturelle, versets 14 et 15. Ensuite, la pratique dans l'Église, verset 16. Toutes les autres Églises y ont compris ça. S'ils veulent être un bon témoignage, Paul il dit, je me suis fait de tout à tous. Avec les Grecs, j'étais grec. Avec les Juifs, j'étais juif. Avec les Arabie Saoudite, je vais être Arabie Saoudite. Avec les Coétiens, je vais être Coétien. Pourquoi? Parce que le message qu'on a, l'évangile qu'on a est plus grand que le vêtement puis la chevelure. Ne pas confondre la distinction entre l'homme et la femme. Application générale. Et c'est ça. Et le défi est vraiment là, hein? L'homme est un homme et la femme est une femme. Ne pas projeter une promiscuité sexuelle, cela ne donne pas gloire à Dieu ni à son mari. S'habiller d'une manière sobre. La Bible en parle de ça. Application spécifique, cross-dressing, travestissement. Les hommes qui s'habillent en femmes et les femmes qui s'habillent en hommes. Ça mélange le message. Créationnel. Vous comprenez, hein? C'est créationnel. Il y a aussi les transgenres. Ça brouille le message de la création de Dieu. On entend parler beaucoup dans ce temps-ci, hein? Puis, j'ai compassion de ces gens-là qui souffrent avec cette crise d'identité, là. Je les juge pas. Mais ça brouille l'identité créationnelle. Porter des choses sexuelles provocantes. Mauvais témoignage. L'apôtre Paul dit, l'homme est l'homme, la femme est la femme. L'acte sexuel est pour le mariage. Pour la joie de l'homme, intended for pleasure. L'intention de Dieu, c'est le plaisir. C'est un livre complet qui est écrit là-dessus par Dr. White. Mais comprenez-vous, à quelque part, c'est que l'apôtre Paul veut dire, écoutez. Jugez-en vous-même, vous les experts de la culture grecque. Vous qui vivez dans cette société. Le mauvais témoignage pour l'Église, le message que vous lancez de la manière que vous habillez. Puis je vous dire quelque chose, c'est que dans toutes les églises au Québec, soit en Arabie Saoudite, que ce soit n'importe où dans le monde, je parlais avec Adama justement, au Tchad. Adama, il dit en Afrique, c'est tout mêlé, il y a toutes sortes d'affaires, mais au Tchad, savez-vous qu'au Tchad, vous allez voir toutes les femmes avec quoi? Quelque chose sur la tête. Parce que socialement, c'est comme ça. Mais si une femme au Tchad monte ses épaules, savez-vous ce que ça dit? C'est une femme immodeste. C'est une femme à mosse légère. Immorale. Et partout dans l'histoire et partout dans les continents où nous allons, la culture, on ne peut pas se dissocier de la société, sinon il faudrait sortir de ce monde. Mais il faut être dans le monde tout en étant préservé du mal. Et là, je reviens à mes tiroirs. Ma prière pour l'Assemblée du Cap, que les choses fondamentales soient vraiment fondamentales. Il faut s'unir ensemble pour travailler ensemble, sortir l'Évangile. Les choses importantes, mais non fondamentales, peut-être pour vous, vous avez des convictions, c'est important, c'est bien, gardez vos convictions, ou que le Seigneur change votre cœur, ou que le Seigneur vous fait apprendre quelque chose. Liberté. Et puis dans toutes ces choses, c'est l'amour. Sans ça, on ne s'en sort pas. Et c'est pour ça qu'il y a tant de dénominations. Les gens disent, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison. Et la plupart du temps, on parle juste des femmes en passant. Là. C'est tout, la femme pas ci, la femme pas ça. Puis, à quelque part, ma prière pour l'Assemblée du Cap, c'est qu'on soit unis dans les choses fondamentales, des choses non négociables, comme le sang précieux de Jésus-Christ nous sauve de tout péché. On a-tu de la misère avec ça? La résurrection, on a-tu de la misère avec ça? Le retour du Seigneur, on a-tu de la misère avec ça? La louange, l'adoration, on a-tu de la misère avec ça? Tu sais... Puis là, je voulais, là, il était 29, je voulais vous lire les premiers versets, les cinq premiers versets de 1 Corinthiens 13. Est-ce quelqu'un qui peut les citer? Que je parlerai de quoi? Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Avoir la plus grande chose, c'est l'amour. Tout ce chapitre-là dit ça. Ça va dans le premier tiroir. Après ça, le deuxième tiroir. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Qu'est-ce que ça dit? Paul, après avoir écrit ça, là, 11. Après avoir écrit 12. Il écrit 13. Pourquoi? Qu'est-ce qui est prioritaire? Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est pas, vous allez tous avoir des chiens noirs à la table du Seigneur. Vous êtes mes disciples. C'est pas ça que ça dit. L'amour. Et il met l'emphase là-dessus. Même si j'ai toute la connaissance, même si pour moi, là, il n'y a rien d'embrouillé dans la Bible, puis tout est facile à comprendre. Attention, Paul dit le contraire. Il y a des choses difficiles à comprendre. Puis, car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. OK, j'ai des convictions. Mais je dois être assez humble, puis respectueux envers la parole de Dieu, et envers les chrétiens, pour laisser la porte ouverte. Être enseignable. Il dit, même si je vendrais tous mes biens, comme qu'on disait ce matin, même si je donnerais tout ça, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. Même si quelqu'un dit, moi, je m'ai pété à la galerie au 4 de matin, je m'a vendre ma maison la semaine prochaine, je m'a tout donné ça aux personnes persécutées. Là, on va être applaudi. Mais si tu ne l'as pas fait par amour, tu l'as fait pour la gloire de l'homme, ça ne sert à rien. C'est fort, hein? Puis je voulais vous montrer la différence entre ce qui est enraciné dans la création, avec Dieu, les attributs de Dieu, ou enraciné dans la culture et la société du premier siècle. Deux choses différentes. L'apôtre Paul arrive, gros bon sens, signification culturelle, pratique dans l'Église. Principe. Principe donné. Et quoi le principe? Toi. L'homme est l'homme et la femme est la femme. Et il y a de l'ordre dans l'Église, puis il y a de l'ordre dans la famille. L'application du principe. Voici comment est-ce qu'on l'applique. Ensuite, il y a le support pour le principe. 2 Timothée 12, 14. Je vais vous montrer pourquoi la différence entre 11 et 14. 11 et 1 Corinthiens 2, 12 et 14. Ça, je fais ça vite. Mais il faut que je le dise, parce que si je ne le dis pas, je vais l'oublier. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. On a là, dans cette phrase, le principe. Le principe, et on a aussi l'application. Le principe, c'est que la femme ne doit pas enseigner la doctrine, comme Trevor fait, enseigner la doctrine, puis elle ne doit pas usurper l'autorité de l'homme. Elle ne doit pas prendre l'autorité dans ses mains, à cause de l'ordre créationnel. Et c'est le support du principe qui est là. Voyez-vous que ce n'est pas la même affaire dans 1 Timothée 2, 12, 14 et 1 Corinthiens 11, c'est deux choses différentes, parce que l'argumentation est uniquement sur l'ordre créationnel. Pourquoi? Car Adam a été formé le premier, ensuite Ève. Ensuite, Adam n'a pas été séduit, mais la femme a été séduite, s'est rendue coupable d'une transgression. Je vais arrêter là, avec mes appendices. Là. Je ne vais pas aller loin. Mais comprenez-vous la différence entre les deux? Lorsqu'on arrive dans 1 Corinthiens 11, l'apôtre Paul, ses arguments principaux, c'est pas l'ordre créationnel, même s'il l'a fait une fois, mais il va supporter son principe par les choses culturelles et sociales. Et là, il dit à lui-même, wow! Attention, les gars, là. Attention, les filles. Vous autres, les gars, avec les cheveux longs, là, vous passez pour des prostituées mâles. Parce que des prostituées mâles, là, c'est le même qui faisait les annonces. Hey, l'autre jour, je suivais quelqu'un. Vous ne croyez pas. En tout cas, là, ça avait l'air d'une belle fille. Des beaux grands cheveux, là. Croyez pas, elle l'a dépassé. C'est un, pas un L, c'est un il. Vraiment confus, puis j'ai essayé de trouver une photo comme ça, mais je n'ai pas trouvé. Mais, t'as regardé par en arrière, tu disais, wow, ça, c'est un beau pétard, cette fille-là, avec des beaux cheveux comme ça. T'as regardé par en arrière quand j'ai passé, puis j'ai vu que c'était un gars avec une facelette, là, tu sais. Tu sais, t'es même pas cute, là, tu sais. Non, mais, il faut savoir quelque part, là, que le mélange brouille la création de Dieu qui est l'homme et l'homme et la femme et la femme. Point final. Et la différence entre 1 Timothée 2, 12 et 14 et 1 Corinthiens 11, c'est que dans 2, 12 et 14, on n'a pas l'argument social, culturel. On a juste l'argument théologique. Ça a-tu du sens? En tout cas, si vous avez d'autres questions, je vais arrêter là parce que je vais me faire lapider. Je sais que c'est des textes difficiles, c'est sec un peu, mais je ne veux pas m'excuser d'avoir fait de l'exégèse parce que vous savez, il faut apprendre à interpréter nos Bibles. Vous savez, quelqu'un vient au Seigneur, il n'a jamais lu la Bible de sa vie, il n'a jamais rien compris. Il lit sa Bible dans 6 mois, il lit sa Bible d'un an, puis il se lève debout à la table du Seigneur, puis il commence à parler de Dieu. J'en ai vu de ça à tonnes, qui dit des affaires qui n'ont pas d'allure, des affaires qui ne collent pas théologiquement. Bon, tu dis, bon, c'est un pauvre, c'est un homme, il va apprendre. Tu sais, tu ne sautes pas sur le monde à cause de ça. Mais soyons respectueux, soyons polis lorsqu'on lit la Bible, qu'on dit « ainsi parle l'Éternel ». C'est dangereux, ça. Puis je vous le dis, là, moi, un matin, là, c'est avec crainte et tremblement, j'aurais aimé bien mieux exposer le psaume 105 qui parle de la gloire de Dieu, de l'étendue des cieux, qui parle des hauts faits de Dieu. Mais on est rendu à l'Assemblée chrétienne du Cap à un point où est-ce qu'on doit aborder ces sujets. Qu'on soit unis dans les choses qui est fondamental. Qu'on soit unis dans tout cela. Pour les choses importantes à vos yeux, importantes à mes yeux, mais qui n'est pas fondamentale, écoutez, s'il vous plaît, beaucoup de respect les uns pour les autres, beaucoup d'amour dans toutes ces choses. Par ceci, ils vont reconnaître que nous sommes des enfants de Dieu. On va prier. Seigneur Dieu, merci pour ta grâce envers nous. Merci pour le fait qu'on puisse réfléchir ensemble, Seigneur, ta parole. Seigneur Dieu, on remet toutes choses entre tes mains. Merci, Seigneur, pour ce temps ensemble. Et Seigneur, encore une fois, parle à nos cœurs. Fais de nous une Église unie, Seigneur, avec les choses qui sont non négociables. Et fais qu'on soit remplis, Seigneur, d'amour, de respect les uns pour les autres, avec les autres choses. Et qu'on puisse avancer, Seigneur, et sortir l'Évangile de ces quatre murs. Et fais connaître la bonne nouvelle à nos contemporains, à la gloire de ton nom. Amen.